ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, rien que de la musique.
Bonjour à toutes, bonjour à tous dans Comme à la radio, votre émission de jazz sur RCF. Cette semaine, comme tous ces derniers temps, nous allons commencer l'émission par un coup de cœur. Alors c'est désormais chaque semaine, donc pour notre coup de cœur, c'est pour le plaisir de partager avec vous la joie d'écouter un morceau qui nous a plu par son originalité, par ce qu'il amène de frais, de convivial, de créatif, pour découvrir une nouvelle génération ou un morceau oublié de l'histoire du jazz. Bref, une trouvaille que nous avons envie de partager avec vous pour le plaisir de célébrer la diversité du jazz, vous offrir ce qui nous rend heureux. Et cette semaine, Alex, tu as choisi le groupe AM.
Alors oui, ça s'écrit E-Y-M et ça se prononce AM. C'est une équation à trois inconnus, avec le pianiste Élie Dufour, le batteur Marc Michel, le contrebassiste Yann Feifest. Un équilibre, alors vous allez vous régaler parce que c'est un équilibre entre des rythmiques très endiablées, très Europe de l'Est, hein, vous l'entendez derrière mes paroles, des harmonies de toute beauté, aussi de la sensibilité, de l'humour dans le jeu. Nous, ce qui nous a frappé dans ce AM trio, c'est que ils ont une identité. On reconnaît, ça n'est pas un AM trio, c'est un trio à part entière, avec des métriques parfois un peu innovantes, comme on aime vous en proposer un petit peu. Écoutez, moi je vous invite à participer à un voyage qu'ils nous ont offert avec ce morceau qui s'appelle Bengaluru ou Bengaluru, je ne sais pas bien le prononcer. J'espère que s'ils écoutent cette émission, ils vont me le pardonner.
de cœur d'Alex avec ce trio qu'il faut absolument retenir, AM Trio. Alors aujourd'hui, Alex, tu nous as concocté une émission sur un petit nouveau dans la musique, un peu oublié, un certain Miles Davis.
Et oui, Miles Davis, de son vrai nom, Miles Dewey Davis III. Et vous allez vous demander, mais pourquoi 3? Ben parce que son papa s'appelait Miles Dewey Davis II et son grand-père Miles Dewey Davis I. Voilà une famille qui manquait un peu d'imagination. Ça commence assez mal pour un créatif. En plus, il grandit dans un milieu familial relativement aisé avec un papa chirurgien dentiste, mais mélomane, une maman qui joue du piano et du violon, une grand-mère qui est prof d'orgue. Bref, il commence bien logiquement à jouer de la trompette à l'âge de 13 ans. Mais, miracle, ça a été un des musiciens à la pointe de beaucoup d'évolutions dans le jazz. Et surtout, c'est ce qui me touche chez lui, c'est qu'il a une capacité extraordinaire à découvrir et à s'entourer de nouveaux talents. Donc il a marqué l'histoire du jazz et de la musique du XXe siècle. Et les différentes formations de Miles Davis sont des laboratoires au sein desquels se sont révélés les talents de nouvelles générations, les nouveaux horizons de la musique moderne. Un exemple, Sonny Rollins, Billy Vance, John Coltrane, durant les années 50. De 60 à 80, les Sidemen changent. Ils se nomment Herbie Hancock, Wayne Shorter, Chick Corea, John McLaughlin, Keith Jarrett, Dave Liebman, Kenny Garrett. Bon, c'est avec eux qu'il s'oriente vers le jazz fusion dont il a été un des pionniers. Et il est quand même un des rares jazzmen et l'un des premiers musiciens noirs à être connu et accepté par l'Amérique moyenne. Il a même obtenu le trophée de l'homme le mieux habillé de l'année en 1960. Donc, comme Louis Armstrong, Miles Davis est un phénomène curieux, c'est-à-dire une superstar du jazz. Mais à la différence de son glorieux aîné, qui avait recherché l'intégration à la culture grand public dominée par la population blanche, le parcours musical de Miles s'accompagne d'une prise de position politique en faveur de la cause noire et de sa lutte contre le racisme. Et en France, c'est l'enregistrement de la musique Ascenseur pour l'échafaud de Louis Malle qui l'a rendu célèbre, mais il y a aussi d'autres petites merveilles que l'on connaît moins et qu'il faudrait écouter, par exemple Tat's Delight. Thank you.
That's Delight par Miles Davis. Miles Davis dont Alex nous parle aujourd'hui. Alors Alex, comme tu le disais, finalement pour faire de la créativité dans le jazz comme ailleurs, il faut un environnement favorable. Et ce qui compte beaucoup pour les musiciens de jazz, c'est leur maison de disques. Et là, on est dans les années Columbia.
On est dans les années Columbia et Miles Davis et cette maison de disques, c'est une très longue histoire. Imaginez 30 ans. 30 ans entre la première séance d'enregistrement du trompettiste par la compagnie phonographique américaine en octobre 1955 à New York avec John Coltrane et la dernière en 1985. 30 ans durant lesquels Columbia a donné toute la liberté à Miles Davis, c'est extraordinaire. Pour Miles et Columbia, rien n'est trop beau. Il enregistre en grand orchestre avec Gilly Vance. Les pochettes de ses disques sont sophistiquées avec de grands peintres, de beaux dessins. Et chose exceptionnelle, de 68 à 75, il aura un studio possible ouvert jour et nuit. Et de disque en disque, ainsi, Miles Davis a pu se réinventer, passer d'une forme à l'autre, faire entendre son futur musical plutôt que refaire ce qui lui avait réussi dans le disque précédent. Et l'année charnière 54-55 aura vu la transformation de Miles Davis de bon trompettiste en jazzman de génie, passé maître dans l'art du solo avec des répertoires élargis, un champ de sonorité qui est quand même reconnaissable, qui est défini. Quand on entend un morceau, on dit « Ah, ça c'est du Miles Davis », avec un son très résonnant lorsque la trompette est ouverte et un timbre assourdi, introspectif, dès qu'il met une sourdine. On reconnaît au premier son Miles Davis. Et au Newport Jazz Festival de 55, donc avec les débuts des années Columbia dont on parle aujourd'hui, l'interprétation de Miles Davis de Round Midnight, un thème de Monk et de Cootie Williams, son interprétation est saluée par une standing ovation doublée d'un immense succès critique. La carrière du trompettiste, sérieusement mise en péril par les problèmes de drogue qu'il avait à l'époque, est définitivement relancée. Nous écoutons cette version de 55 de Round Midnight, Miles Davis.
Extraordinaire version de Round Midnight par Miles Davis, auquel cette émission est consacrée aujourd'hui, cette émission de Comme à la radio que vous écoutez sur RCF Côte d'Azur, émission à laquelle bien sûr vous pouvez vous abonner en podcast sur le site de RCF Côte d'Azur. Alors, on parle de Miles Davis aujourd'hui et on a écouté déjà de bien belles choses, Alex, que tu nous racontes et on va parler maintenant du premier grand quintet de Miles Davis et avec évidemment une légende tout aussi grande que celle de Miles Davis au saxo, c'est John Coltrane.
Et oui, en 55, donc juste quelques mois après la mort de Charlie Parker, Miles Davis fonde le groupe considéré comme son premier grand quintet avec John Coltrane au saxophone ténor, Red Garland au piano, Paul Chambers à la contrebasse et Philly Joe Jones à la batterie. Et c'est avec ce groupe que Miles va explorer ses idées musicales du moment, basées notamment sur l'approche de l'immense pianiste Ahmad Jamal, qui avait commencé à exprimer au début de l'année avec l'album The Miles Davis Quartet. Le quintet deviendra également le premier symbole du talent de découvreur de Miles Davis. L'ensemble de ses membres, là, quand je vous ai cité tout à l'heure, bon, sont des gens immensément connus, mais à l'époque, ils étaient inconnus et ils deviendront tous des leaders appréciés, le plus connu étant, comme tu le disais, Laurent, John Coltrane, dont la réputation deviendra l'égale, au moins, de celle de Miles Davis. Il parvient par une étrange alchimie a une qualité de l'ensemble supérieure à la somme de ses individualités. Ça, c'est vraiment l'alchimie de Miles Davis. Et je vais vous lire une partie d'une interview de Miles Davis qui parlait de cet orchestre. Il y avait donc à présent Train au saxophone, Philly Joe à la batterie, Red Garland au piano, Paul Chambers à la basse et moi à la trompette. Et plus vite que je n'aurais pu l'imaginer, la musique que nous faisions ensemble est devenue incroyable. C'était si bon que ça me donnait des frissons, comme au public. Merde, c'est très vite devenu effrayant. Tellement que je me pinçais pour m'assurer que j'étais bien là. Peu après que Train et moi, nous nous étions mis à jouer ensemble, le clinique Whitney Balliet a écrit que Coltrane avait, je cite, « un ton sec, non dégauchi, qui met en valeur Davis comme une monture grossière pour une belle pierre. » Mais très rapidement, Train est devenu bien plus que ça. Il s'est lui-même transformé en diamant. Je le savais, comme tous ceux qui l'entendaient à l'époque. Et on a dit que ce groupe avait été fondé quelques mois après la mort de Charlie Parker. Et donc, je vous invite à écouter ce morceau de Charlie Parker, justement, qui s'appelle « Ah, le tcha ».
Miles Davis, John Coltrane, ce qu'il faut noter, Alex, c'est que dans cette histoire incroyable, c'est que tout se passe en l'espace de 5 ans, finalement, de 55 à 60, au moment de l'apparition du free jazz. Le jazz est complètement révolutionné, en particulier par ces deux zèbres que sont Miles Davis et John Coltrane. Évidemment, dans cette période, on peut pas passer sous silence l'histoire du disque qui a été celui qui a été le plus vendu de l'histoire du jazz, Kind of Blue, tout ça dans cette période folle.
Oui, on est en 1960, Miles tourne en Europe avec Coltrane, le fidèle Paul Chambers à la contrebasse, Jimmy Cobb à la batterie. Il donne notamment un concert mémorable à l'Olympia. où Coltrane est hué par une bonne partie du public qui est irrité par ses explorations audacieuses. Et en avril, Coltrane officie pour la dernière fois au sein du groupe de Miles Davis. Miles retourne en Europe, à l'Olympia en octobre, mais cette fois-ci avec le saxo plutôt parkérien Sonny Stitt, avec un jeu de Miles qui se montre plus agressif et plus proche d'un hard bop orthodoxe. Mais c'est aussi à cette époque qu'apparaît le free jazz. C'est un genre musical que Miles Davis, qui pour une fois n'a pas lancé un nouveau mouvement de jazz. Jusqu'à présent, il était toujours pionnier. Là, ça n'est pas lui. Donc, il s'ingénie à le critiquer de manière particulièrement caustique, bruyante. Et en même temps, il s'entoure petit à petit, de manière nettement plus discrète, de jeunes gens fortement influencés par ce courant musical. La nouvelle rythmique, c'est Herbie Hancock au piano, Ron Carter à la contrebasse, le batteur Tony Williams, qui n'a que 18 ans à l'époque. C'est vraiment savoir s'entourer des meilleurs, même lorsqu'on est critique. Et en 1959, Laurent, tu le rappelais, Miles Davis a signé ce qu'on considère comme son chef-d'œuvre et que nous dédions à notre ami Thomas, Kind of Blue, un album improvisé autour de trames qu'il a composées avec des modifications de formation par rapport au sextet de Milestones qu'on connaissait. Billy Vance, qui est plus apte à suivre les orientations modales du leader, remplace Red Garland. Jimmy Cobb prend le fauteuil de batteur à Philly Joe Jones. Et c'est le pianiste Wynton Kelly qui était invité sur le morceau Freddy Freeloader, le titre bluesy de l'album Kind of Blue, qu'il considère comme le chef-d'œuvre du jazz modal, en tous les cas un des plus populaires disques de jazz jamais enregistrés. Et c'est sur ce morceau, Freddy Freeloader, de Kind of Blue, que, amis de Comme à la radio et de RCF, nous nous quittons. Au revoir Laurent.
Au revoir Alex, au revoir à toutes, au revoir à tous.